cinématographique avec N'oubliez pas l'ouvreuse. Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, l'ouvreuse Louis-Marie, Laurent Martin. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir Guillaume et bonsoir à tous.
On a eu un petit dérapage au démarrage, mais tout est réglé dans de la meilleure des façons. Alors Laurent, comment allez-vous ?
Ça va très bien, chaudement.
Ah oui, vous avez l'air un peu transpirant.
Oui, c'est vrai qu'il fait chaud dans les studios.
Ouais,
La clim bientôt.
Très bien. Dites-nous Laurent, vous allez nous parler de films à voir à la télé, combien ? Ce soir, allez-vous nous conseiller ?
J'ai sélectionné 4 films pour le cinéma et la télévision cette semaine, dont un chef-d'œuvre à voir ou à revoir ou à découvrir pour certains.
Oh, un chef-d'œuvre ?
Ah oui, je pèse mes mots. Donc Guillaume va vous parler. Et j'en rajouterai une couche. Voilà, pour être sûr que vous allez le regarder.
Bon, sûr et certain. Bon, ben vous le savez, donc avec nous, celui que toute la bande FM nous envie, que toutes ses fans accueillent toujours de la meilleure des façons, en se prosternant devant lui, en l'acclamant, en hurlant, en voulant lui baiser les pieds. Dans le meilleur des cas, quand c'est autre chose, mais là, ça ne nous regarde plus. Bonsoir, Guillaume Sidom.
Bonsoir, Louis-Marie, bonsoir à tous et à toutes.
Vous allez nous parler d'une pièce maîtresse de la mécanique cinématographique, vous qui êtes notre mécanographe. Hein, vous rouvrez votre atelier pour votre retour de manivelle. Alors ce soir, de quoi est-il question ?
Eh bien, ce soir, en une véritable galerie de tableaux du maître du XVIIIe siècle, le peintre de la science-fiction retrace la vie d'un petit noble aux bassesses mécaniques. À retrouver dimanche 21h sur Arte.
Aux bassesses mécaniques, en plus vous faites des jeux de mots. Oh là 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 là. Il est extraordinaire. Alors ce soir, il est très pris. Et donc, comme il est très pris, il n'a pas pu nous livrer sa copie du jour. Je veux parler bien entendu de notre homme de loi des séries, Grégory Com, qui a envoyé un mot d'excuse, comme vous l'aviez fait la semaine dernière, Guillaume Sidom. Ce qui avait rassuré particulièrement vos admiratrices. Et toujours est-il que Grégory Com n'assurera pas sa chronique de ce soir. Nous en sommes désolés. Vous le retrouverez la semaine prochaine. Alors, on continue de regarder ce que contient le panier de l'ouvreuse avec l'affiche de la semaine. On voit qu'on s'achemine doucement, mais...
Sûrement.
Exactement, jusqu'à l'été, et pour le moment, les nouvelles sorties sont peu nombreuses,
oui,
c'est le moins qu'on puisse dire.
De qualité, avec deux films japonais notamment.
Oui, deux films japonais qui méritent le détour, dont un qu'on découvre bien des années plus tard.
Exactement.
Parce qu'il est dans les nouveautés de la semaine, mais en fait, il date des années 90, mais vous allez nous expliquer tout ça. On parlera bien sûr des reprises sur le grand écran, là aussi, il y en a peu, mais des reprises, il en sera question, parce que nous avons un invité dont je vais vous livrer le nom dans quelques secondes, juste après vous avoir dit que, comme d'habitude, cette émission s'achèvera par les coups de cœur, car on a toujours des films, des manifestations, des expositions qu'on a envie que vous alliez voir de notre part. Alors avec nous, ce soir, il y a Franck Lubé. Franck Lubé qui est le responsable de la programmation de la Cinémathèque hors les murs pour toute cette saison. On vous l'a expliqué maintenant, je crois que vous l'avez assimilé, à savoir qu'il faut aller soit au Pâté Wilson pour voir une galaxie, soit à l'Auditorium des Abattoirs, le musée des Abattoirs de Toulouse, pour y découvrir des thématiques. Alors ce soir, nous parlerons ensemble. Franck, bonsoir.
Bonsoir.
des road movies.
Oui.
Ah, oui.
C'est pour vous, ça, Louis.
Ah là hein là, là,
les road movies. Les cheveux au vent, fait que vous avez un avis à l'époque.
Merci de remuer le poteau dans la plaine. dites-moi, ou dites-nous plutôt, Franck Lubé, c'est, le road movie, c'est un genre, hein, un genre en soi. Ouais. Comment c'est arrivé cette. Ou comment le définir parce que le road movie, c'est un voyage. Hein. Ce qui est important, en fait, dans un film, c'est le trajet et pas la destination.
Ben, on peut dire, si on veut le définir de la façon, on va dire, la plus simple, c'est un véhicule motorisé, on va dire, donc une automobile, ou il peut y avoir même des camions aussi, mais ou des motos, et on prend la route. Voilà, pour aller vite, c'est un genre quand même qui est typiquement américain. Il y a des road movies, il y en a d'autres, hein, les road movies français par exemple, il y en a quelques-uns, mais c'est quand même un genre qui est né avec avec les États-Unis et plus particulièrement, on va dire le maître, le point de départ, c'est Easy Rider, hein, grosso modo. Et c'est un genre qui est très 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 intéressant. Je sais pas, peut-être que je prends les devants, mais
mais dites-nous tout.
Qui est très intéressant parce qu'il arrive pas, non plus complètement par hasard, et il a des racines en fait au road movie et qui sont celles du western. C'est-à-dire que le western américain qui est le genre cinématographique qui va quelque part poser les bases de la civilisation américaine avec tout ce que ça comporte comme crime, etc. Mais qui est sur cette idée toujours de repousser la frontière, Et on va de l'ouest vers l'est pour le western. Et donc dans les années 60, l'automobile devient, la voiture devient vraiment aux États-Unis un objet présent, populaire dans quasiment tous les foyers, et comme la télévision fera la même chose, et du coup ça va être le voyage presque dans l'autre sens. Alors on va toujours de l'ouest vers l'est, mais Easy Rider par exemple, c'est on part de l'ouest et on revient vers l'est, et c'est un moment aussi dans l'histoire américaine qui est à un moment beaucoup plus critique, donc avec les différents assassinats, avec le Vietnam, et donc il y a une contestation politique aussi à ce moment-là aux États-Unis, et le road movie porte aussi les germes de cette contestation. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant, parce que ça part du western, qu'on pourrait dire qui est le genre qui accompagne la création quelque part d'une culture américaine complètement construite, normée, et avec le road movie, on est sur la même idée du mouvement, sauf que là du coup on est beaucoup plus critique et davantage dans la contestation par rapport à ce que le western a pu amener dans ces années, des années 30, des années 40, etc.
Oui, effectivement, pour en revenir au western, il y avait le voyage aussi.
Absolument, oui.
Dans la plupart des westerns, mais comme vous le disiez justement, le road movie, américain en tout cas, a tendance à faire, vous l'avez dit aussi, le voyage en sens inverse, comme s'il fallait revoir ce qu'on a piétiné finalement, ou ce qu'on a négligé en allant de l'est à l'ouest.
Ouais.
Et souvent, et on va y venir en détail avec certains des films que vous proposez, ça se passe mal pour celui qui voyage. En tout cas, l'issue du voyage n'est pas toujours bonne.
Oui, c'est une des particularités du genre aussi, effectivement.
Aussi. Ouais. Et pour le clin d'œil, juste une parenthèse avant de passer à la suite de l'émission, il y avait quand même Bully Lanners qui avait fait un road movie assez extraordinaire, Eldorado. Faire un road movie en Belgique relève de l'exploit. Mmh. Vu la taille du pays, on se demande comment on peut faire un voyage où on se promène en voiture, comme ça, un grand voyage en Belgique. Bon, là, c'était juste une parenthèse, une boutade pour nos amis belges et Bully Lanners en particulier. Guillaume Sidom.
Oui, Franck, dans votre excellent édito sur le site de la Cinémathèque de Toulouse, vous écrivez « Le road movie est un genre purement cinématographique, peut-être le plus cinématographique, car il est le genre du mouvement. » En quel sens ?
Parce que le cinéma, c'est le mouvement. D'abord, je parle du cinéma, c'est-à-dire avec la pellicule, la projection, c'est 24 images par seconde. Donc, en fait, le cinéma, c'est des images fixes qui par le mouvement amène le côté animé en fait quoi. Donc ça c'est l'essence même du cinéma et le mouvement, ça va être les mouvements de caméra, ça va être les mouvements à l'intérieur du cadre, etc. Et donc le road movie, il est par essence, il est mouvement. C'est-à-dire il est même plus dans le mouvement, il est mouvement. Et comme le cinéma est mouvement, forcément c'est une espèce de syllogisme. Ça vaut ce que ça vaut, mais je pense que oui, effectivement, c'est un des genres peut-être les plus cinématographiques. Parce qu'on disait il est américain, mais Louis-Marie parlait de Bully Lanners, donc d'autres. Il a traversé l'Atlantique ou le Pacifique, et il y a beaucoup d'autres cinématographies qui s'en sont emparées aussi avec les caractéristiques propres à leur culture, aux différents pays. Et ça, on n'en a pas parlé, mais là où il rejoint aussi notre vieille Europe, là on parlait vraiment du western pour rester aux États-Unis, mais ça rejoint aussi je crois que j'en parle dans l'édito également, un genre qui pour le coup est un genre littéraire, qui est le genre picaresque en fait, quoi, et qui était déjà aussi présent. Donc ça veut dire toujours le mouvement, être en mouvement, c'est rencontrer des obstacles, rencontrer d'autres personnes, c'est évoluer, c'est d'être tout le temps dans l'évolution quelque part, quoi, d'aller en avant, même si à un moment donné on fait le chemin de retour. Je dirais, pour toutes ces raisons, je dirais que c'est peut-être le genre vraiment le plus cinématographique qui soit, quoi.
Eh bien, avant de continuer notre voyage en votre compagnie, Franck Lubet, vous nous amenez dans votre limousine pour traverser tous ces espaces.
Ma limousine à pédale.
Elle est garée dans le cours de la radio.
Un station wagon, comme disent les Américains. L'actualité, en fait non, le sommaire de N'oubliez pas l'ouvreuse reprend ses droits et on retrouve tout de suite le film qu'il faut regarder. Installez-vous confortablement. Attention, c'est rapide.
Vous êtes un vaillant soldat. Et malgré vos talents et votre bravoure, je suis sûr que vous tournerez mal. J'espère, mon colonel, que vous vous trompez sur mon compte.
Est-ce que le colonel va se tromper sur le compte de ce soldat brave, mais qui risque de mal tourner, Guillaume Sidom?
Eh bien, toute la question pour Barry Lyndon, film signé Stanley Kubrick, sorti sur vos écrans en 1975 avec Ryan O'Neill, Marisa Berenson, musique signée Leonard Rosenman, qui va modifier la partition originale de Schubert et moderniser une petite danse baroque d'Handel. On assiste à un film terrifiant parce que toute cette beauté éclairée à la bougie n'est rien d'autre qu'un voile sur la pire des cruautés. Une cruauté bien réelle, celle que l'on voit tous les jours dans notre société policée. Voilà comment le réalisateur Martin Scorsese décrit Barry Lyndon, ce film si particulier, à la fois fresque historique, épopée romanesque et conte philosophique de l'un des réalisateurs les plus exigeants, les plus originaux et les plus visionnaires de notre temps, Monsieur Kubrick. Visuellement somptueux, Barry Lyndon est un chef-d'œuvre tout aussi désespéré sur la condition humaine et les servitudes sociales qu'Orange Mécanique ou Shining, un monument du cinéma, la quintessence du travail d'un artiste, de sa recherche de perfection à tous les niveaux, un objet d'une beauté ensorcelante, d'une technicité inédite, mal accueillie au moment de sa sortie et qui s'est pourtant imposée au fil du temps comme l'une des œuvres majeures du 7e art. Kubrick malmène ici les conventions du récit picaresque, son anti-héros cynique ne gagne la sympathie du spectateur que vers la fin du film, grâce notamment à ses sentiments paternels sincères mais cruellement recomposés. Un film en costume, un film avec des décors et des éclairages naturels, avec des images comme des tableaux sortis tout droit de cette Angleterre du XVIIIe siècle où les guerres, les histoires d'amour et d'argent passent et s'évanouissent sur fond de nature verdoyante, sur fond aussi de châteaux extravagants et de musique grandiose. Et la musique est à la hauteur du projet, je vais y revenir.
Alors, quelle est l'histoire de Barry Lyndon?
Au XVIIIe siècle, fuyant son Irlande natale suite à un duel, le jeune Redmond Barry, sans rang ni fortune, s'engage donc dans l'armée britannique. Après une violente bataille, il déserte et traverse l'Europe sous une fausse identité. Démasqué, il va être enrôlé de force par les Prussiens, paresseux et sans scrupules. Barry gagne pourtant l'amitié d'un officier qu'il envoie en mission à Berlin afin d'espionner un chevalier de la cour. Et auprès de ce nouveau protecteur, Barry devient joueur professionnel professionnelle, les cartes et la tromperie, le libertinage et les usages du monde lui deviennent ainsi familiers. Et un jour, eh bien, il va croiser la route de la belle et riche comtesse de Lyndon. Barry Lyndon est un des films qui reste gravé dans notre mémoire collective grâce à sa somptueuse bande originale, tout d'abord finement empruntée au répertoire du baroque, notamment la sarabande de Handel, jouée 4 fois, qui va scander les événements et les imprégner. Elle joue les décalages, annonce les succès, accompagne aussi les drames et fonctionne comme un leitmotiv pour mieux souligner la destinée tragique du héros. Vient ensuite donc la splendeur des paysages et des lumières inspirées par les grandes peintures du siècle, vaste campagne plongée dans la brume, tablée de nobles blafards éclairés la bougie, duel dans des lumières crues ou bleutées, combat des armées en habits écarlates. Succession de tableaux qui met en valeur la règle inflexible des rites sociaux, la beauté des visages ou des masques et la richesse des couleurs. Mais c'est d'abord la véracité de tous les personnages et en premier lieu celui de Barry qui scelle la puissance du récit. Son tempérament faible, opportuniste et brutal fascine et désoriente au fil de sa spectaculaire épopée à travers l'Europe. C'est par ses yeux donc que nous découvrons la cruauté, les raffinements d'une société en constante représentation, d'une beauté blanche et grave. L'infortunée Lady Lyndon préfigure, elle, le romantisme et au-delà de leurs existences, c'est du siècle baroque que Kubrick peint le portrait dans un film figurant parmi ses chefs-d'œuvre. Pour vous faire peut-être une idée de l'entreprise monumentale que représente ce tournage, 2 chiffres concernant le budget, initialement fixé à 2,5 millions de dollars, il va en atteindre finalement 11 millions. C'est que Stanley Kubrick ne lâche rien avant d'avoir obtenu exactement ce qu'il veut. Et au moment de la sortie du film, nous pouvons ainsi résumer la quintessence de sa direction d'acteur. Et sur le plateau, ses maîtres mots sont « fais-le plus vite, fais-le plus lentement, fais-le encore et surtout, fais-le encore ». Malgré ses 4 Oscars, photographie, costume, direction artistique, adaptation musicale, Barry Lyndon est accueilli froidement par la critique et le public, surtout aux États-Unis. Il reste longtemps un film incompris, mal aimé. On va louer sa virtuosité visuelle, mais on lui reproche par contre sa froideur émotionnelle. Pourtant, comment ne pas être touché par l'extra-lucidité de Kubrick et par sa compassion pour ces petits personnages broyés par un destin bien trop grand pour eux. 50 ans après sa sortie, voir ou revoir Barry Lyndon, c'est sentir intact et suave l'odeur de la mort sous les tentures en soie. À retrouver donc ce dimanche 8 juin à 21h sur Arte et en Blu-ray et DVD chez Warner Bros. Et d'ici là, ouvrez l'œil et le bon, et surtout, allez au cinéma.
Edmond Barry est irlandais. Il y a donc de la musique irlandaise dans Barry Lyndon. C'est le groupe The Chieftains qui interprète la plupart des titres, des morceaux typiques et folkloriques, traditionnels qu'on entend dans le film, comme celui-ci qui s'intitule Woman of Ireland. Ouais, pour la petite histoire, vous qui écumiez les Boom en 1990, un groupe qui s'appelait The Christian avait repris ce thème traditionnel pour en faire un slow. «
Je dois être à San Francisco demain à 3h de l'après-midi.
Ah, mais tu me racontes des Dis salades.
Ça, je voudrais bien.
Eh bien, tu peux mettre une croix dessus parce que tu n'y arriveras pas.
Qu'est-ce qu'on parie?
Pourquoi? C'est une bagnole qui a été gonflée.
On retourne sur la route avec vous, Franck Lubé. Ah, ça, c'est un film monumental, un road movie par excellence, 1971. Le réalisateur n'a pas gravé les mémoires, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, Richard Sarafian. Par contre, son film, oui, point limite, zéro. Ouais. Quelle drôle d'histoire, là aussi.
Ah, je pense que... Bah, tout à l'heure, on parlait avec Guillaume de justement de la question du mouvement, etc. Et si s'il doit y avoir peut-être la quintessence même du road movie, c'est ce film-là.
Effectivement.
C'est un film. Alors, mais vous savez que Sarafian, il est pas très très connu.
C'est vrai.
Hein, il est pas très connu, mais quand même dans le milieu cinéphile, c'est quand même quelqu'un de connu, non seulement pour ce film-là, mais également pour des westerns en fait qu'il a réalisé aussi. Je crois que c'est après, et qui sont très très de très très bons films également. Mais là, on est. Je sais pas, il faut le résumer rapidement.
C'est pas compliqué, c'est un type qui accepte un pari, il doit aller de Denver à San Francisco en 35 heures.
Voilà, c'est ça.
Et donc, il a plus de 2000 km à faire, voilà. dans une Challenger.
Déjà à l'époque, il y avait les 35 heures. Alors.
Ouais. Et le film est une sorte de... dans mon souvenir, je crois qu'il revient du Vietnam.
Oui.
Et le film est une sorte de là pour le coup vraiment de fuite en avant parce qu'il faut aller vite, il faut traverser le pays à toute allure et donc il va avoir toutes les forces de police à ses trousses et il y a un personnage dans ce film, je sais pas si vous vous souvenez,
mais oui,
qui est qui tient le micro hein comme
ben
vous.
Ben oui, et qui est, c'est un comment comme les appellent les Américains un vrai DJ,
ouais.
Dans sa radio et c'est il est noir et aveugle.
Et aveugle. Et c'est lui qui, c'est pas qu'il mène la danse, mais il donne des informations et il parle à notre personnage qui écoute la radio et il donne des bulletins comme ça. Et puis il envoie de la musique aussi. Et c'est un personnage presque mystique, j'ai envie de dire. On rejoint quelque part quelque chose peut-être de la mythologie qui est une sorte de cœur antique comme ça qui commente et qui accompagne l'action. C'est un film, franchement, c'est vraiment un film génial, quoi. Ah moi, je serais de. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu en salle. Là, je serais là. C'est un grand plaisir que je crois qu'on le passe qu'une seule fois. Donc, soyez présents.
Quel jour?
C'est le samedi 14 juin à 18h.
Ah, il faudra pas le manquer.
Ouais, c'est une seule séance. Et il faut. Ouais, c'est vraiment. Et comme Louis-Marie, comme vous disiez, en plus c'est un film culte.
Ben oui.
Voilà. Et c'est un très très bon film. C'est un film culte. Enfin c'est. Enfin voilà. C'est.
Et il coche toutes les cases. Et vous parliez de cet animateur de radio, celui qui est une espèce de cette voix qui vient d'en haut.
Oui.
Mais en bas. Il va croiser des gens justement qui écoutent et qui sont au courant de ce pari, de ce qu'il est en train de faire,
ouais.
qui n'a d'autre raison que de faire. Il est censé gagner un peu d'argent quand même, de l'argent. Mais en fait, c'est un pari. Mais on sait même pas. C'est même pas très intéressant. Néanmoins, il va être aidé qui par un vagabond, des hippies, parce que évidemment, avec les flics à ses trousses, ça va être de plus en plus difficile de passer. Et ouais. Il faut lui faire prendre des chemins détournés. Tout en allant vite et très vite.
Exactement. C'est vraiment. Et c'est, du coup, c'est aussi un film. Comme vous serez toutes et tous présents, donc on ne va pas rentrer dans le détail,
non.
Parce que vous allez le découvrir. Mais on en parlait tout à l'heure. C'est aussi un film qui fait écho à un moment donné des États-Unis, de crise de conscience.
Oui,
on peut dire ça comme ça.
Le film est sorti en 71, c'est un ancien de la guerre du Vietnam, et en fait ce trajet va lui permettre de revenir sur tout ce qu'il a vécu, et on va apprendre petit à petit tout au long de cette épopée ce qu'il a vécu.
Ouais.
Et en fait, pourquoi il fait ça, quoi.
Exactement, et donc ça revient voilà, avec aussi l'histoire des États-Unis, mais revisité à fond la caisse, quoi.
Exactement, on va continuer, mais notre voyage en votre compagnie, mais tout de suite l'actualité avec les films à l'affiche cette semaine. Laurent Martin, L'Ouvreuse, ensemble.
À l'affiche cette semaine, Le Répondeur, le film de Fabienne Gaudet avec Denis Podalydès, Salif Cissé et Oratika. C'est l'histoire de Baptiste, un imitateur de talent qui ne parvient pas à vivre de son art. Et un jour, il est approché par Pierre, qui lui est un romancier célèbre, constamment dérangé par les appels incessants de son éditeur, de sa fille, de son ex-femme, de sa maîtresse et de Guillaume Sédom. Pierre, qui a besoin de calme pour écrire son texte le plus ambitieux, propose alors à Baptiste de devenir son répondeur en se faisant passer pour lui au téléphone. Et peu à peu, celui-ci ne se contente pas d'imiter l'écrivain, il va développer un propre personnage. Une idée de scénario finalement assez géniale, hein. Il s'agit d'ailleurs d'une adaptation du roman de Luc Blanvillain, mais éminemment casse-gueule, si vous me passez l'expression. Comment régler la question de la voix de Podalydès lorsque le personnage de Cissé prend les coups de fil à sa place? Fabienne Gaudet a décidé de faire confiance à son comédien, hein, qui parvient à imiter quasiment à la perfection le timbre de voix de Podalydès. Bien sûr, il y a quelques habiles bidouilles de mixage sonore, hein, qui vont compléter l'illusion, et le résultat est suffisamment fluide pour qu'on y croie sans effort. Un atout majeur qui n'empêche pas le film de tirer légèrement en longueur, hein, et de ne pas toujours exploiter pleinement son potentiel comique, mais le duo d'acteurs compense les baisses de régime. Podalydès déroule son art du flegme élégant, hein, et il fait partie quand même de la comédie française, donc c'est un grand acteur, alors que Salif Cissé impose une présence tranquille avant de peu à peu occuper l'espace et d'imprimer sa rythmique. L'alchimie entre les deux, plutôt inattendue d'ailleurs sur le papier, devient plutôt une évidence. Louis-Marie, vous vous êtes mis sur répondeur ce jour-là et vous avez rencontré la réalisatrice Fabienne Gaudet.
Et oui, et j'ai tout enregistré. C'est l'avantage d'être sur répondeur. Et elle nous a tout expliqué, l'histoire du livre, comment elle a eu envie de faire d'adapter le roman de Luc Blanvillain, et surtout... De se mettre dans le sillage, dans le sillon plutôt, de la comédie, elle qui jusqu'à présent n'a fait que des drames. Alors, elle va nous expliquer, elle va vous expliquer quel est l'enjeu du film et quel enjeu elle mettait dans la réalisation de ce film. Fabienne Gaudet.
Pour moi, en fait, qui n'ai jamais fait de comédie, c'est le 16e film et j'y avais deux enjeux. D'abord, un, m'atteler à un genre que je connaissais pas bien, même si dans mes films, il y a parfois de l'humour, des choses comme ça, mais en tout cas, ça se finit quand même assez mal, hein, souvent, chez moi. Là, j'avais envie que ça se finisse bien, et même si la fin du livre est un peu différente, en tout cas, je voulais que ça se finisse bien. Et puis, l'autre enjeu, c'était le son. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on y croit. Et quand j'ai rencontré en écriture Michael Gregorio, qui est un très très grand imitateur que vous connaissez, il m'a dit effectivement ton enjeu est là, c'est-à-dire que si on n'y arrive pas, le film sera raté, c'est-à-dire que personne ne va y croire, parce qu'on est dans quelque chose qui n'est pas réaliste mais qui est vraisemblable.
Pas réaliste mais vraisemblable, et oui, et pour que ce soit vraisemblable, il faut que l'imitateur imite et imite bien, et il va tellement en faire. Alors, effectivement, sur le papier, le point de départ est improbable, mais le résultat donne, pour quelqu'un qui n'avait jamais fait de comédie, elle l'a dit, Fabienne Gaudet, ben c'est une comédie pleine de charme. Il y a des malentendus, évidemment, il y a du marivaudage, bien sûr, des relations familiales tendues, et puis il y a ce duo entre Pierre et Baptiste qui donne lieu à une complicité inattendue. Alors il y a les imitations qui parfois sont comiques, et puis il y a une réflexion aussi intime, parce que Salif Cissé, il est fort et il incarne avec tendresse et malice, il est le gardien des voix, le gardien de la voix, et il s'en sort plutôt bien. Alors si Fabienne Gaudet savait qu'elle tournerait avec Denis Podalydès et Oratika, par contre, comment a-t-elle trouvé Salif Cissé pour interpréter Baptiste? Eh bien, voilà sa réponse.
Et pour Baptiste, en fait, j'avais pas grand monde en tête. Je savais juste que je voulais un jeune qui soit à peu près 30 ans. Donc, j'ai travaillé avec un directeur de casting, David Bertrand. Et David, il m'a proposé donc plein de gens, plein de jeunes. Certains acteurs ont refusé, parce que le rôle leur faisait peur. Dans ceux qui ont accepté le casting, il y avait Salif. Salif, il était plus que bien. Salif, il était il était un cran au-dessus. Il a ce charisme, il a ce magnétisme qui est incroyable. Il est magnétique dans la vie et sur l'écran. Il fait partie de ces acteurs qui prennent la lumière. La caméra l'aime, hein, en fait, ça se voit.
Ça se voit, et la caméra l'a happé, ou il a plutôt happé la caméra, Salif Cissé, et on n'a pas fini de le voir. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite. Et toujours est-il qu'autour de ce tandem, quand même, parce qu'il y a ces deux personnages, mais il y a une galerie de personnages plutôt bien écrits. Il y a Clara, la maîtresse de Pierre, je le disais, incarnée par Horatica, qui est remarquable. Il y a Elsa, sa fille, la fille de Pierre, artiste en quête de sens. Et elle va s'épanouir grâce à Baptiste. Et puis il y a Fanny, l'amie de Baptiste. Alors c'est pas qu'une satire des relations modernes, mais c'est surtout une fable plutôt chaleureuse où les petits mensonges du répondeur débouchent sur de grandes vérités et des réconciliations. Après tout, un feel good movie de temps en temps, ça fait du bien, non ?
Oui, oui, tout à fait. Ah oui. D'ailleurs, il faut savoir que ce n'est pas nous qui faisons l'émission, mais des imitateurs.
Voilà, exactement.
Oui, à noter que vous pouvez retrouver, écouter l'interview en longueur de la réalisatrice Fabienne Godet dans l'excellente chronique Mercredi Cinéma sur radioprésence.com.
Une petite revue de presse sur ce film. Fabienne Godet signe une comédie ingénieuse et drôle qui confronte le talentueux et prometteur Salif Cissé au grand comédien qui est Denis Podalydès, toujours aussi génial. Selon le Figaro, petit bémol pour les fiches du cinéma. Malgré un Salif Cissé attachant, cette comédie à la fois parfaitement invraisemblable et trop superficielle peine à emporter l'adhésion. À l'affiche aussi cette semaine, on parlait en début d'émission de films japonais, mais en voici un. C'est Jardin d'été, le film Shinji Somai. Pendant leurs grandes vacances, dans un Kobe écrasé de chaleur, trois jeunes amis en balle d'aventure se questionnent sur la mort et se passionnent peu à peu pour le jardin abandonné d'un ermite qui les fascine. Ils se mettent en tête de lui rénover sa maison délabrée et petit à petit, les trois garçons, le vieil homme, se lient d'amitié. Et ce jardin d'été sera leur terrain de jeu, le temps d'un été inoubliable. Il faut saluer le distributeur Survivance qui a entrepris de faire connaître au public français l'œuvre de Shinji Somai, un réalisateur japonais décédé en 2001 à 53 ans, un cinéaste adulé par nombre de ses pères nippons, hein, Koreeda, Hamaguchi, un cinéaste que vous connaissez, Frank Lubé, Yamamoto Kemagare.
Absolument.
De sa quinzaine de films. On connaît son film, un teen movie qui s'appelle Typhoon Club, qui avait connu une sortie en salle. Il avait entamé sa carrière avec Le Magistral Déménagement. C'était le récit d'un divorce vu à travers les yeux d'un gamin de 11 ans. C'était vraiment très bien. Et donc ce film Jardin d'été a été tourné, on l'a dit, en 1994. Et que, ben, c'est que maintenant qu'on peut le découvrir. Donc ces trois enfants s'interrogent sur... Il y a l'un d'eux qui revient d'un enterrement. Donc forcément, on s'interroge sur la mort, sur cette expérience et qui leur diffuse. Et ce qu'ils ressentent face à la mort, c'est-à-dire la fascination que peut entraîner la mort, mais aussi une trouille bleue. Construite en plan séquence, sa mise en scène fluide offre un écrin parfait à ce récit, aussi ludique que profond, dont l'extrême délicatesse épouse le point de vue de l'enfance. Voilà, on découle donc un récit initiatique finalement, le temps d'un été est vraiment d'une poésie lumineuse, vraiment à découvrir ce cinéaste. Jardin d'été est autant une ode à l'insouciance de la jeunesse qu'à la sagesse des aînés, selon ce film. L'Obs a bien aimé aussi, tout est lumière, chaleur et intempérie chez Somai, adepte de plans séquences organiques et d'images chatoyantes, expression d'une douceur de vivre. À l'affiche aussi cette semaine, on pourra voir Fragment d'un parcours amoureux de Chloé Barrault à l'ABC de Toulouse. On pourra s'allonger sur un canapé pour aller voir Freud, la dernière confession de Matt Brown au CGR Le Paris-Montauban, par exemple. Un autre cinéaste japonais que j'aime depuis des années, c'est Kiyoshi Kurosawa, qui nous sert son cloud, qu'on peut voir par exemple au Grand Palais à Cahors. Kurosawa interroge ici la place du numérique dans nos vies. On peut voir aussi le film d'action de la semaine de l'univers de John Wick, Ballerina, de Lance Wiseman, et puis pour finir, un documentaire sur l'hôpital qui s'appelle Sauf qui peut, d'Alex Poukine, qu'on peut voir à l'américaine Cosmographe.
Chante tout bas,
Un homme et une femme qui étaient à l'honneur cette année à Cannes, et pour cause, c'était l'affiche de cette 78e édition, hein, c'est ça, si je me souviens bien. Et oui, vous vouliez dire...
Deux affiches même.
Mais c'est bien ce que je disais, deux affiches. On pouvait voir le visage de l'un, puis le visage de l'autre, pour la même étreinte, ouais. En fait, de cet homme et de cette femme. Et alors, on a mis un homme et une femme, je vais arriver à le dire, interprétés par Pierre Barou et Nicole Croisil, musique de Francis Lai, les paroles Pierre Barou. Mais Nicole Croisil nous a quittés aujourd'hui, en même temps que Philippe Labreau, oui. Ou c'est Philippe Labreau qui l'a fait en même temps que Nicole Croisil, on va pas se disputer dans de l'ordre, et tous les deux à 88 ans. Et Nicole Croisil est surtout célèbre, en tout cas dans le cinéma, pour cette chanson. Elle n'a pas été célèbre que dans le cinéma, mais elle n'a pas fait carrière dans le cinéma. Simplement, cette chanson a fait le tour du monde et a réalisé un carton monumental dans tous les charts du monde entier. Et Philippe Labreau, même s'il a été surtout journaliste et écrivain, oui. A réalisé quelques films, oui. 8. Oui.
Le Montalbani, l'un des Montalbani les plus célèbres.
Oui.
C'est Léa Montauban.
Il avait dirigé quand même Jean-Louis Trintignant, c'était Sans mobile apparent, Jean-Paul Belmondo dans deux films, L'héritier et l'alpagueur. Il avait dirigé aussi Gérard Depardieu et Nathalie Baye dans Rive droite, rive gauche. Et ça fait quand même une filmographie et des acteurs qu'il a dirigés assez connus et célèbres. Mais je le disais surtout, on le retiendra comme journaliste et patron de presse et écrivain.
Salut.
Salut Richard.
Content de te revoir.
Oui. Je vais chercher Olive.
Olive ? Papa ?
Commencez, n'attendez pas.
Dépêchez-vous.
Franck, tu veux du Sprite ?
Oui.
Et je veux que tout le monde prenne un peu de salade.
Dis donc, Cheryl, je viens de remarquer que Dwayne ne parlait plus.
Oh, oui, il a fait vœu de silence.
Ah, tu as fait vœu de silence?
Il veut entrer à la Air Force Academy pour devenir pilote d'essai, alors il a fait vœu de silence jusqu'à ce qu'il atteigne son but.
Tu plaisantes?
Bonjour, oncle Franck.
Oh, salut, toi. Dis donc, mais qu'est-ce que t'as poussé? On dirait presque une vraie personne.
Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ils ont quoi, tes bras? Allez.
Non, c'est rien. J'ai eu un petit accident, mais ça va.
Dis-moi, ton enchaînement, ça avance ?
Oui, oui.
C'est vrai ? Quand est-ce qu'on le verra ?
Alors, après un homme au volant d'une voiture lancée à toute vitesse, voilà une famille entière qui monte dans un Kobe Volkswagen pour accompagner la petite Olive pour participer à un concours de petite Miss. C'est Little Miss Sunshine, avec quand même une distribution assez extraordinaire. Greg Kinnear, Steve Carell, Tony Collette. On le connaissait pas bien encore, mais Paul Dano, maintenant, le connaît bien puisqu'il est devenu le méchant, l'affreux dans Batman. Alan Arkin, le doyen de la distribution. Et puis, il y avait la toute jeune Abigail Breslin, Little Miss Sunshine. C'est ça aussi, c'est un road movie.
Ah bah oui, bah oui, complètement.
Familial.
C'est le road movie familial.
Il faut pousser le van des fois, quand il démarre pas.
Oui, et puis on retrouve toujours alors peut-être là c'est un petit peu différent par rapport au road movie des années 70 qu'on évoquait tout à l'heure. Mais il y a ce côté... ce côté roman d'apprentissage et donc là c'est une famille quoi, donc confrontée, dysfonctionnelle,
oui, évidemment
voilà, évidemment dysfonctionnelle parce que c'est toujours comme ça qu'elles sont les plus intéressantes.
Ben oui, et elle est tellement dysfonctionnelle
que
le combi a des problèmes avec la première.
Ouais.
Donc, tout est dysfonctionnel dans la famille. Et ce voyage va finalement régler un peu, remettre de l'huile dans les rouages et ça marche.
Eh ben, ça finit bien.
Ben oui.
On parlait tout à l'heure que ça finissait plutôt mal le road movie. Ben, il faut toujours quand même une exception pour confirmer la règle. Et oui, c'est un film un peu feel good, hein, vraiment, quoi.
Oui.
Qui est peut-être pas tant dans l'idée de prendre la route, mais en tout cas l'arrivée. Et à l'arrivée, On ressort avec, je sais pas si on réglera chacun et chacune nos problèmes de famille, mais en tout cas là, à travers le film, on arrive à quelque chose de tout à fait acceptable.
Ah oui, 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 parce que là, franchement, il y avait du boulot.
Il y avait du, ouais, voilà, on partait de loin.
On partait de très très loin. Il arrive quand même des drames dans le film, on va pas rentrer dans le détail. Et si tout s'arrange pour la famille, la petite fille gagnera pas le concours, mais elle fera un show sur scène assez extraordinaire. C'est ça qu'il faut retenir. Un petit détour sur les reprises et on revient, parce que les films dont on parle sont des reprises également, mais on va voir d'autres qui ne font pas partie des road movies. C'est Angelo Badalamenti qui signe la bande originale de ce film d'un duo qui n'existe plus depuis longtemps, Caro et Jeunet.
Oui.
Et c'est la cité des enfants perdus. Jeunet a continué, Caro a un petit peu disparu et quel dommage parce qu'ensemble, ils faisaient des choses extraordinaires comme ce film-ci, indescriptible. Il est c'est très difficile à décrire parce que tant c'est baroque, c'est fou, c'est une époque indéterminée. On est dans au large d'une ville portuaire et il y a un savant qui vit reclus sur une plateforme protégée par un champ de mines marines. Je veux dire, on peut pas y approcher. Mais il est un génie qui a des problèmes. Alors pour résoudre ses problèmes, parce qu'il a plus d'affect, il fait kidnapper des enfants. Puis il y a des méchants de l'autre côté sur le continent, en fait. Allez voir le film, ça mérite largement le détour. Et, il est possible de le voir au cinéma Pathé Wilson lundi prochain 9 juin à 19h30. Et puis, on le revoit aussi justement au Pathé Wilson, un film beaucoup plus ancien, puisque la Cité des Enfants Perdus c'était 95, c'est Les Maudits, le film de René Clément. Alors Les Maudits, ça c'est un film de 47, on est au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, des Allemands nazis, un groupe de nazis, de collaborateurs, ils n'ont pas tous la même nationalité, ils décident de quitter Oslo en sous-marin pour aller en Amérique du Sud. Et puis au large des côtes françaises, il y a une grenade qui explose à proximité du sous-marin, ce qui fait que l'équipage va à terre, kidnappe un médecin français, il l'amène avec eux dans cette épopée. Et c'est à travers les yeux de cet homme qu'on va découvrir ce que sont et ce qu'étaient ces êtres abominable et que finalement ils seront pas les mieux accueillis du monde en Amérique latine. Bien fait pour eux. En tout cas, le film de René Clément est remarquable et à découvrir. Donc, je le disais, au cinéma Pathé Wilson, jeudi 5 juin, c'est-à-dire demain à 22h et lundi 9 juin à 22h30. Laurent,
oui.
Qu'est-ce que vous nous promettez à voir sur les petits écrans?
Le cinéma, la télévision, ça commence dès demain, jeudi, 21h05, sur Chérie 25, avec Argo 2 et avec Ben Affleck. En novembre 79, lors de la révolution iranienne, des militants envahissent l'ambassade américaine de Téhéran et prennent 52 Américains en otage. Et 6 Américains réussissent à s'échapper et à se réfugier au domicile de l'ambassadeur canadien. Et un spécialiste de l'exfiltration de la CIA monte un plan risqué visant à les faire sortir du pays. Une histoire incroyable, mais vraie. Un film intelligent et très prenant, vraiment, à voir. Vendredi, France 5, 21h10, ce sera Les Mille, le train de la liberté de Sébastien Graal avec Jean-Pierre Marielle et Philippe Noiré. Nous sommes en mai 1940 et le commandant Perrochon est nommé à la tête d'un camp d'internement près d'Aix-en-Provence, Les Mille. Ce sont des étrangers qui ont fui le nazisme, qui sont regroupés dans la crainte qu'ils soient des espions. Et le commandant va découvrir peu à peu la personnalité de certains d'entre eux. C'est un épisode peu connu de la Seconde Guerre mondiale qui a inspiré à Sébastien Graal un film émouvant et humaniste. Dimanche, Arte, 21h, à ne pas louper, Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Un film de 1975, Guillaume vous en a brillamment parlé. Je voudrais rajouter deux anecdotes. C'est que Robert Redford était le premier choix de Kubrick, mais il ne pouvait pas, il était sur notre tournage. Donc c'est Ryan O'Neill qui s'est collé. Et il y a une fameuse scène du film qui a été tourné dans un château à Longleat, et ce lieu historique a la particularité d'abriter un parc safari d'où s'échappaient des cris de singes, ce qui gênait la concentration de Ryan O'Neill. Alors comment les faire taire? Eh bien, la production a dû acheminer des quantités astronomiques de bananes dont les singes se gavaient pendant que les caméras tournaient, comme ça ils se tenaient peinards, sauf que ça a tellement bien marché que les singes sont tombés malades et ont été pris de nausées.
Vous avez un autre conseil?
Je tournais ma page, c'était pour vous laisser digérer votre la banane.
Exactement, on avait peur de glisser sur la peau de la banane.
Alors qu'il avait fait orange mécanique, il y a aussi banane mécanique.
Oui, c'est pas la même chose.
C'était la cinémathèque d'ailleurs.
Voilà, c'était exactement. Alors je poursuis ma chronique. Lundi sur Arte 21h, un western, Le Grand McClintock, un mi-film de 63 de Joe McLaglen, avec John Wayne, cet homme, hein, irrespecté et craint de tout le monde, hein, c'est un Texan, et sa femme Catherine, qui revient après 2 ans d'absence pour demander le divorce, mais lui, il ne l'entend pas de cette oreille. Traité sur le ton de la comédie, un western familial, amusant et généreux. Le Blu-ray de la semaine, hein, ça, c'est un petit bijou. Compañeros, de Sergio Corbucci. Alors que la révolution mexicaine fait rage, le cupide et tyrannique général Mongo est désireux de mettre le grappin sur un précieux butin détenu dans un coffre-fort ultra sécurisé. Celui-ci va engager un trafiquant d'armes suédois et un rebelle mexicain. Je vous laisse découvrir la suite. Écrit et réalisé par l'immense Sergio Corbucci, Compañeros réussit quand même la prouesse de réunir les deux grandes stars du western italien de l'époque, hein, Franco Nero et Tomas Milian. Voilà magnifique Blu-ray que vous découvrez aux éditions Carlotta pour une 20aine d'euros. Tenez Guillaume, je vous l'offre, c'est cadeau. Eh bien, voilà pour le cinéma beaucoup. La télévision, cette semaine.
My name is Romeo Dolorosa.
Well, my name is Petita Durango.
Do you wanna come with me?
On revient à une épopée beaucoup plus stressante, beaucoup plus sanguinolente. Là, cette fois-ci, ce sont des bandits, des gangsters. Romeo Dolorosa et Perdita Durango. Extraordinaire. Perdita Durango, dont on avait fait la connaissance dans C'est l'or et Lula.
Exactement.
De David Lynch, et qui devient un personnage à part entière, mais devant la caméra d'Alex de la Iglesia. Là aussi, on roule à très très vive allure.
Ouais, et puis là, on franchit les lignes.
Ouais,
là, franchit les lignes. Histoire d'un couple, un couple criminel.
Oui. Ouais, on peut dire ça comme ça.
On va dire ça comme ça, quoi, pour faire assez simple. Non, c'est un film complètement fou de Alex de la Iglesia. Alors, film. Là, on fait une petite entorse parce que c'est un film mexicain. C'est pas un film américain.
Oui.
Enfin, de studio. Oui. Parce que tout le reste de la programmation, en fait, on n'avait pas énormément de films. On n'avait pas énormément de séances. On était resté vraiment concentré sur le cinéma américain. Et là, on a fait un petit pas de côté.
Il me semble même que la production est espagnole.
C'est possible aussi. J'ai pas en tête. Donc espagnol, Mexique, et là c'est un film complètement fou. Et c'est vrai que ça nous intéressait aussi parce que c'est l'or et Lula, et que Perdita Durango était jouée par Isabella Rossellini,
oui,
dans le film de Lynch. Et là voilà, c'est un autre.
C'est Rosy Perez.
Et c'est un peu plus épicé et c'est quand même assez fun.
Oui.
Je trouve que voilà, il y a c'est violent, c'est sanglant, mais
c'est drôle.
Mais c'est drôle aussi. C'est une autre façon de jouer aussi avec les codes, de les retourner également. Donc et puis Guillermo del Toro, je pense que c'est pas la, enfin voilà, s'il fallait.
Non, c'est Alex de la Iglesia.
Alex de la Iglesia, pardon. Alex de la Iglesia. Donc s'il fallait juste pour donner envie, genre Alex de la Iglesia, quoi. C'est toujours on pousse dans le rouge, beaucoup d'humour, toujours les pas de côté, des croche-pattes, et on sort de là quand même avec peut-être avec la banane. Alors, peut-être c'est pas la même que celle de Kubrick. Oui, oui. Encore que, on peut avoir des petits problèmes de digestion oui, aussi à la sortie de Palita de Wango. Mais quand même, qu'est-ce que c'est fun.
Ah oui, oui, oui. Alors, il fait partie de la programmation Road Movie. Tiens, allez, on continue, on reprend la route. Ça va être peut-être un peu plus calme, mais pas vraiment. Là, on s'en va sur la route avec Kelly Richard, River of Grass. Le morceau qu'on écoute, là, c'est Améric B qui l'interprète, c'est Don't Break the Heart. En fait, Kelly Richard, maintenant, on peut revoir le film. C'est un de ses premiers films, si ce n'est le premier. Elle avait fait d'autres films qui avaient très bien marché, qu'il avait révélé au grand public. Elle était d'ailleurs à Cannes cette année avec The Mastermind, dont on attend la sortie avec impatience. Et là, c'est là aussi un road movie. Alors, on a vu, si on repense au film dont on a parlé, l'ancien du Vietnam qui roule pour arriver à soigner des plaies, finalement. La famille qui va se reconstruire. Alors, deux gangsters complètement dingues. Et voilà autre chose encore, c'est une femme qui, par un concours de circonstances, malheureux, c'est le moins qu'on puisse dire, s'ennuie ferme dans son ménage et se retrouve embarquée dans une aventure. Vous savez, elle est là, au mauvais moment, au mauvais endroit, et la voilà partie sur la route avec un homme, un pistolet, qui appartient à son grand-père. Et ça va prendre une drôle de tournure, tout ça.
Oui, oui. C'est pareil, je cherche toujours les images pour c'est peut-être c'est Bonnie and Clyde du cinéma indépendant.
Oui.
Pour aller rapidement.
Hein. En moins sanglant malgré tout.
Moins sanglant. Mais alors peut-être on pourrait dire alors comme il y a un film aussi de Jim Jarmusch, alors un Bonnie and Clyde passé par le filtre de Jim Jarmusch, mais bon à la fin c'est quand même un film de Kelly Richard. Véritablement là on est plutôt côté ciné indé et vrai faux road movie parce que
oui.
parce que en fait on a tous les codes qui sont là. Et en même temps qu'ils sont détournés. On parlait tout à l'heure avec Alex de la Iglesia. Par contre, les codes sont là et en fait, on pousse tout dans le rouge. Et peut-être avec Kelly Richard, on fait un léger pas de côté. On va peut-être un peu moins vite. On va s'intéresser à d'autres choses quoi.
On s'intéresse à d'autres choses et finalement vous le dites clairement, le road movie commence à la fin.
C'est un peu voilà, c'est un vrai faux road movie. Mais c'est un très beau film.
On marche bien et on comprend comment. En fait, on comprend, non pas forcément, comme un peu sa famille, on comprend pas ce qui arrive à cette femme, à Cozy.
Oui.
Elle s'ennuie, quoi, dans son couple. Elle a un enfant, elle s'ennuie.
Ouais, ouais.
Ses journées sont les mêmes. S'occuper de son môme, son mari qui part travailler.
Il y avait un film, donc antérieur, je sais pas si vous vous souvenez de Vanda, de Barbara Loden.
Oui.
On est un peu sur cette même ligne d'un personnage féminin grosso modo mère au foyer hein, et puis à un moment donné qui dit fuck up quoi.
Oui, voilà, exactement. Ouais. Et elle s'en va sur les routes. Alors il nous reste deux petites minutes, il fallait un nom du cinéma américain. Musique musique à consonance mexicaine, bien sûr, signée Jerry Springfield pour Sam Peckinpah son fameux Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia. Ah oui, un monument.
Avec Warren Oates.
Warren Oates.
Si jamais il y avait un film à voir de toute la programmation, c'est peut-être celui-là. Mais bon, je pourrais le dire de tous. Mais quand même.
Bon, on va voir Point Limite Zéro et Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia.
Ouais, faut aller tout voir. Mais c'est vrai que c'est un film. Alors là encore, quoi, on est tout à l'heure, on parlait quand on parlait justement de road movie à la base de la question de la de repousser les frontières de l'est vers l'ouest ou de l'ouest vers l'est pour refaire revoir le chemin à l'inverse. Là, c'est un film qui est sud-nord en fait. C'est parce que du coup, c'est Mexique et en fait, c'est de remonter. Et bon, c'est un film.
C'est le thème du western, la vengeance.
C'est l'avant.
Parce qu'Alfredo Garcia a déshonoré la fille d'un grand ranchero, il donne 1 million de pesos pour qu'on lui rapporte sa tête.
Pour qu'on lui rapporte sa tête, exactement. Et il fait chaud. Et donc la tête aussi va prendre la température. Alors là, c'est un film très violent, crépusculaire.
C'est du Peckinpah, quand
c'est du Peckinpah. Et j'en profite du coup parce que je vais faire de la peut-être une légère promotion. C'est Sam Peckinpah. Il y a une énorme biographie là qui vient de sortir chez Actes Sud. C'est 800 pages. Sam Peckinpah à lire. Absolument.
Eh bien, en tout cas, les road movies, on est ensemble, puisque nous sommes partenaires avec vous.
Jusqu'au bout de la route.
Jusqu'au bout de la route, jusqu'au 29 juin, cinéma@radioprésence.com pour aller voir un de ces films, puis il y en a encore plein d'autres. C'était un choix tout à fait subjectif. Il fallait qu'il y ait Peckinpah, il fallait qu'il y ait Point Limite Zéro. Messieurs, quels sont vos coups de cœur?
Les coups de cœur, les deux films japonais, Jardin d'été et Cloud, et bien sûr le road movie aux abattoirs.
Le répondeur des tours en ciné court jusqu'au 7 juin, road movie évidemment aux abattoirs, et Barry Lyndon, dimanche 21h, Arte.
Le répondeur Jardin d'été, road movie évidemment, j'ai déjà ma moto prête pour partir. Merci Franck Lubé, merci messieurs.
Bonne soirée,
merci à vous.
Mercredi.
On se retrouve la semaine prochaine à 20h, Nathalie Cardon, salut.
Écoutez Présence, c'est votre radio. Soutenez Radio Présence. Qu'elle devienne aussi la radio de...